Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Comeau, Fabienne Pascaud et René Solis. À notre affiche de Hidden Force, texte de Louis Couperus, mis en scène Ivo Van Hove, à voir à la grande halle de la Villette en ce moment. Onegin, d'après Pouchkin, mis en scène Jean-Luc Bellorini, en ce moment à l'affiche du théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Il y aura un coup de cœur de Fabienne Pascaud pour Les Sorcières de Salem, d'Arthur Miller, mis en scène Emmanuel de Marcimota au théâtre de la Ville. Et puis un petit salon de Lucille Comeau, le Festival d'Avignon contre le printemps des comédiens. Et nous ouvrons cette dispute avec The Hidden Force. Bon, on pourrait dire la force cachée, peut-être, la force obscure. Bon, on vous proposerait des traductions. En tout cas, c'est d'après un texte, un roman de Louis Couperus. Et c'est une mise en scène d'Ivo Van Hove qu'on peut voir à la Grande Halle de la Villette dans le Festival 100% avec le Théâtre de la Ville. Après Les choses qui passent, un spectacle qui avait été présenté au Festival d'Avignon il y a 2 ans maintenant, Ivo Van Hove poursuit son travail sur cet auteur néerlandais, Louis Couperus, né en 1863, mort en 1923. Les francophones que nous sommes ont assez peu accès quand même à ces textes, puisqu'il y a peu de traductions, une grosse production pourtant. Moi, j'ai recensé donc 3 traductions françaises sur une 50aine de romans publiés par Couperus. C'est peu. La biographie, par contre, de Louis Couperus nous apprend qu'il a passé une partie de sa jeunesse aux Indes orientales néerlandaises, allant à l'école à Batavia, aujourd'hui Jakarta, en Indonésie. Il était, Couperus, le petit-fils d'un gouverneur général de cette colonie. De nombreux membres de sa famille ont travaillé pour le gouvernement colonial. Et si j'en parle, c'est parce que ce type de famille et ce pays sont au centre de la pièce dont on va parler ce soir. Un premier tour de table. Alors, c'est un exercice nouveau et encore à affiner pour donner votre impression et peut-être nous donner déjà à entendre, sans trop en dévoiler, ce que sera votre sentiment sur cette production. Fabienne Pascaud.
C'est un grand spectacle qu'on ne peut pas ne pas aimer. Peut-être trop grand spectacle, peut-être trop de perfection théâtrale. En tout cas, on en prend plein les yeux, plein les oreilles et le spectaculaire coule à flot.
René Solis.
Oui, c'est un spectacle impressionnant d'efficacité visuelle et dramatique. Voilà, on peut en discuter par ailleurs.
On va en discuter. Lucille Comeau.
C'est un peu pareil. Moi, je trouve ça un peu sec, un peu théorique, et peut-être à force aussi de voir des spectacles d'Ivo Van Hove. Là, on voit les rouages sont très, très à nu. Moi, je suis restée très extérieure.
Bon, vous allez développer. Après que Fabienne Pascaud, peut-être, parce qu'elle en a l'art, puisse nous résumer.
Alors là, vous me coupez les jambes.
Non, mais parce que vous faites toujours très bien. Le point de départ narratif, les relations entre les personnages, ils ne sont pas si nombreux, mais les relations ne sont pas simples, on va dire.
Alors, on est en Inde orientale néerlandaise, comme vous le disiez tout à l'heure, sûrement en l'Indonésie d'aujourd'hui, chez la famille, dans la famille d'un fonctionnaire zélé qui doit avoir le rang, je crois que c'est commissaire, mais ça doit équivaler.
On dit résident.
Résident, dans la voilà. Pièce. Et qui se prend pour un homme exemplaire. Il a l'air de l'être, d'ailleurs, très, très attaché aux personnes qu'il dirige, très attaché à sa mission colonisatrice. Il a quand même une deuxième épouse qui a l'air un peu fofolle, puisqu'elle couche avec son propre fils, un premier-né. Il a une fille, ce résident, qui est très attiré par les métis. Et visiblement, il contrôle pas très bien la situation. Finalement, il y a une malédiction qui a l'air de s'abattre sur sa famille. Il y a deux mondes qui s'opposent. Le rationnel que représente ce résident et le mystère, le magie, les malédictions que représentent donc les indigènes. Et donc, Couperus, il raconte, il a vécu ça. Il a vécu là-bas pendant sa jeunesse, et il raconte à merveille cette atmosphère de déliquescence, de décomposition, de désorganisation. Il dit d'érosion, Ivo Vanov.
Non, on viendra là aussi sur cette... comment vous dites ? C'est quoi le terme employé par érosion ?
Érosion.
Érosion, pas mal, érosion. René Solis, on l'a évoqué à peine, mais dans quel espace est-ce que se joue ce spectacle ?
Alors, un immense plateau nu, ou à peu près nu, un parquet de balles avec du plancher magnifique. Très bel espace à la Villette, d'ailleurs, ça correspond très bien. Et c'est un espace où on s'attend presque à voir arriver des danseurs. Mais non, alors il y a quand même...
Il y en a,
il y en a à certains moments. Mais alors il est nu, on pourrait dire, s'arrêter là. Et en fait, il n'est pas si nu que ça, puisque les quelques éléments qu'il contient sont évidemment très importants. Il y a quelques fauteuils dont on n'est pas sûr de l'usage. D'ailleurs, ils s'en servent pas vraiment pour s'y asseoir. Il y a surtout à court, c'est-à-dire à droite, quand on est dans la salle et qu'on regarde vers le plateau, un piano à queue. Et ce piano à queue, il va prendre cher, on peut dire, parce que il arrive pas mal de malheurs, je vais y venir. Et puis il y a aussi au fond, tout au fond, un écran de projection, puisqu'il y a un tout petit peu de vidéo, mais il n'en abuse pas du tout, puisqu'il y a au tout début et à la fin, le début c'est projection de bord de mer avec des vagues, et la fin c'est un paysage de rizière, on va dire, c'est un voyage en train avec des paysages très verts, très bucoliques. Mais c'est tout, c'est à peu près le seul usage qui est fait des projections. Et donc le piano prend cher, et pas seulement, puisqu'il y a effectivement au milieu de la scène un dispositif qui fait arriver régulièrement la mousson, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire des orages d'une violence inouïe. Je crois que j'ai rarement vu au théâtre une telle intensité de pluie dans le déluge, et donc qui trempe régulièrement les acteurs, et qui trempe aussi ce malheureux piano dont le pianiste passe une partie de la représentation à essuyer, à enlever l'eau.
La raquette.
Je ne sais pas s'il y a une bonne assurance pour ce piano, mais...
Alors il doit être traité, on peut l'espérer,
mais quand même, je veux dire, des déluges d'eau sur un piano, ça n'a jamais été très bon.
Et pourtant, il a l'air de jouer à peu près juste jusqu'au bout, tant qu'il s'en sert encore, en tout cas. Peut-être quand même rajouter qu'il y a des portants, mais qui d'une part tiennent des sortes d'instruments de percussion avec lequel Harry DeWitt, qui est le musicien sur le plateau, va jouer. Au fond, il y a un portant avec des habits, et de temps en temps, on se change. Et il y a une table de repas aussi, qu'on n'arrête pas d'installer, d'enlever, sans qu'a priori on les voit jamais officier. Et puis, il y a quand même un espace qui serait le bureau du résident, mais qui est vraiment une table d'enfant, enfin de petite école, devant laquelle il s'agenouille. Les écrans, je me permets de rectifier, mais les trois murs, sauf le quatrième qui est celui qu'on enlève pour que le public puisse voir, sont des réceptacles de ces vidéos. Donc, de temps en temps, il y a des effets immersifs assez impressionnants. Dans l'espace de jeu, ce musicien Harry DeWitt, il va jouer tout au long du spectacle, pas mal de percussions, mais aussi donc du piano, qui va prendre cher, qui va prendre de l'eau. D'autres instruments, on va l'entendre dans cet extrait, court extrait du début du spectacle.
Wat heerlijk dat jij weer thuis bent.
Eindelijk, bedoel je? Waar is Dodie?
Die heeft zich opgesloten in haar kamer. Je moet met haar praten, Leonie. Die Addy brengt haar het hoofd op hol.
Alle meisjes hier zijn verliefd op hem. Intellect heeft hij niet, maar mooi is hij wel. Je ziet er bedrukt uit. Heb je mij gemist?
Daar had ik geen tijd voor.
Ik weet het, het binnenlands bestuur gaat boven alles.
Ik laat jou je stille genietingen, jij laat mij de mijne. Ik zou dit leven niet willen ruilen.
Nee, ook niet voor het gouverneurschap.
Misschien, ooit.
Thank you.
Mais Hidden Force, on pourrait dire mélodrame familial et fantastique. Cette mise en scène d'Ivo Vanov, et Lucille Comeau qui n'est pas d'accord va pouvoir nous dire pourquoi. Alors, quand on a vu peut-être pas mal de spectacles d'Ivo Vanov, ce que vous disiez tout à l'heure, on peut être un peu... pas lassé, ce serait un peu fort comme mot, mais peut-être gêné par la répétition des mêmes dispositifs, de la même façon de faire, une sorte de savoir-faire, très bien faire, j'imagine, c'est ce que vous pensez, mais peut-être une forme de lassitude pour vous ?
Oui, je ne sais pas si c'est exactement de la lassitude. Vous disiez mélodrame, c'est un mot que j'ai lu à plusieurs reprises là aujourd'hui dans la presse. C'est drôle parce que je ne vois pas du tout le rapport entre le mélodrame, au-delà du fait que ça se passe en famille. Pour moi, c'est vraiment de la pure tragédie, ces histoires d'amour qui circulent entre les membres de la famille. En fait, ce qui est assez étonnant quand Français, en effet, on n'a pas lu le texte de Louis Couperus, c'est qu'on imagine un énorme texte avec beaucoup de chair, avec de la pulpe, avec quelque chose à la Conrad, vraiment le cœur des ténèbres poisseux de l'Indonésie coloniale. Or, ce que nous en donne Ivo Vanov, mais encore une fois, c'est un parti pris, enfin, c'est ce qu'il veut faire, c'est quelque chose d'assez sec, de très rapide. Le spectacle est assez court. Comme d'habitude chez Ivo Vanov, ça fuse. Là, on entendait des petits bouts de dialogue, ça fuse à une vitesse incroyable. On a l'impression que ça va jamais assez vite pour lui. C'est-à-dire que les scènes s'enchaînent avec un art du montage qui est cinématographique et extrêmement rapide. Les personnages restent en scène, même lorsque les scènes ne sont pas encore finies. On anticipe même sur la scène suivante avec des personnages qui n'ont rien à voir avec l'action. Tout ça fait que on est pris dans une sorte d'engrenage qui est vraiment l'engrenage tragique. Ça se termine, je ne vais pas absolument raconter tout, mais sur un tableau qui est incisif, enfin un mythe absolu. Otto devient une sorte de figure tragique absolue. Tout ça me laisse un petit peu pas pantoise du tout, parce qu'au contraire, je trouve qu'on comprend absolument tout ce qui se passe très vite. D'ailleurs, les personnages eux-mêmes comprennent tout le temps tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont totalement extra-lucides. Dès les premières 5-10 minutes, Otto, donc ce personnage principal de gouverneur, sait absolument que ce qui l'anime n'est pas du courage, il le dit, mais une forme d'entêtement, je crois que c'est les mots qu'il utilise en traduction française. Tous les personnages savent absolument ce qui va leur arriver, ce qui laisse assez peu de place finalement à l'interprétation du spectateur. Et toute la question coloniale est très sèchement abordée, à tel point que les rapports de force qui pourraient être une matière théâtrale entre les indigènes, ceux qu'ils appellent les indigènes, et les colons, sont traités finalement comme des rapports de force du pur théâtre de tragédie, où la question sociale intervient assez peu, la question de la langue intervient tout petit peu, mais aussi assez peu. J'en veux pour témoin la manière dont est traité, je finis juste là-dessus, le personnage de la princesse qui est en fait la reine,
la mère du régent,
qui est l'interlocutrice,
la mère du régent.
Voilà. La mère du régent, l'interlocutrice d'Otto, qui est traitée physiquement presque comme une figure indigène de série B ou de bande dessinée, avec des grandes boucles d'oreilles qui teintent quand elle se retourne. D'ailleurs, il y a un aspect un peu comique, les gens riaient, moi, le soir où j'ai vu la pièce. Donc, tout ça fait que, comme toujours, moi, ça me fait toujours un peu ça, les spectacles d'Ivo Vanov. C'est très impressionnant, mais j'en garde pas. Ça manque un peu de chair. Je voudrais que ça se développe plus, à la limite que ce soit plus long. Ça me manque un peu.
Fabienne Pascaud.
Moi, je ne suis pas aussi sévère que Lucille, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui est d'une perfection absolue. Ivo Vanov ne se laisse pas attraper, par exemple, par le problème actuellement qu'ont certains metteurs en scène qui ne font pas jouer des personnages noirs par des noirs. Lui, par exemple, les personnages des indigènes, ce sont de vrais Indonésiens, j'imagine. Et donc, il est dans tous les détails. Vraiment, on ne peut l'avoir nulle part. Il y a une sorte de perfection qui est presque trop, moi, je trouve. Mais moyennant quoi, même si tous les personnages savent ce qui va leur arriver, savent qu'ils partent à la défaite, même le personnage de la princesse, enfin tout ça, et ils vont vers leur crépuscule tous, mais ils ne savent pas comment faire autrement. Et c'est ça que je trouve assez beau, c'est l'impuissance de personnages, de créatures qui savent tout ce qui va leur arriver, mais qui ne peuvent pas résister. Un engrenage fatal, moite, glauque,
Et c'est là, je trouve, que Ivo Vanov rejoint quand même une certaine humanité par-delà la perfection qui est partout dans cette pluie qui avance, quand il veut faire peur, cette image si totalement cinématographique de cette douche. Son épouse, sa deuxième épouse, prend sa douche, puis tout à coup, l'eau se transforme en sang et elle est immédiatement rouge sang. C'est une image absolument somptueuse. Il y en a d'autres, plein de spectacles. Mais justement, tout ça, c'est tellement parfait, mais en même temps l'impuissance des personnages à aller autre part que ce qu'ils savent dès le début qui va leur arriver, je trouve ça assez bouleversant.
Ça peut poser aussi la question du texte, peut-être quand même juste dire, ils ne s'embarrassent pas avec les Indonésiens, alors certes les serviteurs ou les servants ou servantes sont peut-être d'origine indonésienne, mais c'est le cas ni de la princesse ni de Adi, qui sont des Néerlandais de l'international.
La princesse était une Indonésienne.
Ah non,
aussi.
Pas du tout. On l'a déjà vu dans les spectacles d'Ivo Vanov.
Parce qu'elle a une espèce d'allure comme
alors
ça.
Elle s'appelle même Chris Netveld.
Vous me décevez là.
Et Adi Velius, Mingus Dagelet, on avait également vu. Mais
c'est intéressant. La question ne se pose même
la
pas.
La question
ça,
se pose
ce
pas.
Ce n'est pas la question.
Oui, c'est pas la question. La question coloniale n'étant pas la moins simple dans ce spectacle, mais je donne la parole à René Solis avant d'intervenir pour ma part.
Alors moi, je suis d'accord sur la vitesse et la brutalité du spectacle. Je suis pas d'accord sur la sécheresse. Je trouve pas que ce soit sec. Je trouve que il y a même une profusion comme ça. Alors on pourrait dire qu'il les ébauche, il les approfondit pas, mais il a quand même une capacité incroyable à en quelques secondes à imposer un personnage, une situation qui est quand même le signe des grands, des très bons, quoi. Parce que il y a pas de pas d'hésitation. On est de plein pied avec une immédiate.
Il
n'y a pas cinq secondes de temps d'attente. On est en plein là-dedans. On est pris, on est complètement. Alors il y a une profusion des thèmes quand même. Là
c'est
aussi,
peut-être le problème quand même.
Oui, alors il y a un peu
pas tout traiter.
Il y a les rapports évidemment entre colonialistes et colonisés.
L'enfant bâtard.
L'Occident. Il y a les histoires de l'enfant bâtard.
Qui est particulièrement maltraité, enfin mal.
La famille qui s'effondre, etc. Et moi, à un moment,
la magie.
Je me suis quand même demandé si, en fait, il y avait vraiment tout ça dans le roman original. Et j'en suis pas totalement certain. J'avais déjà eu ce sentiment par rapport au spectacle d'Avignon, le sentiment que c'était plus le texte au service de la mise en scène que la mise en scène au service du texte. Et donc, j'aimerais bien y aller voir de plus près, voir s'il y a autant de choses que ça dans le roman de Coupouse. Et sur l'histoire de l'inceste...
Moi, je pense, j'imagine l'inverse, moi. Je me dis qu'il y a justement beaucoup de choses dans le roman de Coupouse, c'est que Ivanov a voulu peut-être trop le respecter, mettre trop d'éléments, et que du coup, ça nuit à l'efficacité dramaturgique.
Je ne suis pas complètement certain, et je pense qu'il est plus malin que ça, d'une certaine façon, avec le texte. Cette histoire d'inceste, par exemple, je ne sais pas comment vous l'avez comprise, mais moi, au début, j'ai aucun doute, c'est un inceste mère-fils, là aussi, d'une crudité, d'une brutalité, c'est formidable, on est en plein dedans. Et puis ensuite, quand on écoute bien le texte,
c'est mère-beau-fils.
C'est pas un inceste. Et donc, il entretient l'ambiguïté. Ouais. Complètement là-dessus, Vanhoef, et je le soupçonne de faire un peu pareil avec d'autres éléments du texte. Donc, j'ai de temps en temps la sensation qu'il va un peu au-delà. Oui, il faudrait avoir accès au texte de Coupruss et on l'a pas.
Ouais, quoi qu'il en soit, il me semble qu'il y a quand même beaucoup trop de thèmes en deux heures pour pouvoir les traiter de façon vraiment intéressante. Parce que, par exemple, il y a un personnage qui m'intéresse beaucoup, je sais pas comment il est chez Coupruss, c'est celui de Franz, qui est donc un métis fonctionnaire, donc qui est au service des colons, qui évidemment est amoureux d'une néerlandaise. En plus, j'aime infiniment cet acteur qu'on voit aussi régulièrement, c'est la troupe de l'International Theatre d'Amsterdam, maintenant qu'ils ont changé de nom, c'est plus le Tunnel Group. Mais c'est un personnage qui, lui, commence à exister, à avoir une certaine épaisseur. Pour le coup, on est vraiment dans le mélodrame avec lui. Moi, je vois pas tellement la tragédie. Je vois vraiment le mélo sudiste. C'est presque du Tennessee Williams en Indonésie. Il y a quelque chose d'un rapport. Alors oui, ça s'ancre dans les histoires frères, sœurs, à qui couche avec qui, mais au sens incestueux possible du terme. Mais chaque fois qu'il y avait des personnages qui commençaient à être un peu dessinés, moi, il me manquait quelque chose pour vraiment être en empathie, en adhésion ou en rejet d'ailleurs des personnages qui est intéressant aussi.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Fabienne ?
Moi, je trouve ça que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est cassé, on est coupé un peu.
Il joue avec notre frustration aussi.
Oui, oui, je dis ça parce qu'en ayant aimé le spectacle.
Et aussi avec notre imaginaire, justement, en effet, qui est pris totalement en charge par le dispositif que décrivait René Solis au départ. En fait, on a l'impression que tout ce qui est charnel, tout ce qui est de l'ordre de la décomposition, est uniquement pris en charge par l'eau qui coule, qui coule. Et ça fonctionne, c'est magnifique, en effet. Sauf que ce type de fonctionnement que vous décrivez, qui sont des fonctionnements psychologiques et qui, en plus, nous, sont nourris par un imaginaire du sud des États-Unis, encore une fois, de Conrad, de toute cette littérature américaine, je pense qu'on l'a immédiatement en point de mire quand on aborde ce type de texte et ce type de narration. Or, on ne l'a pas. Tout ça, toute la question charnelle, toute la question de la moiteur, de cette réversibilité propre au récit colonial, le dedans, le sombre dedans, le sombre dehors, est pris en charge uniquement par des effets de lumière et
l'humidité.
Je trouve que c'est très séparé.
Mais
bien sûr, bien sûr, mais on peut avoir des personnages très intéressants qui n'ont pas de profondeur psychologique. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ils ont une matière, mais qui n'est pas une matière d'ordre ni romanesque, ni psychologique. Ça reste, à mon avis, des vrais personnages de théâtre, au sens presque du théâtre antique. Moi, j'ai vraiment vu ça.
René Solis.
Non, il y a aussi quand même de la chair, de l'incarnation.
Il y a des moments comme ça d'incarnation, justement.
Assez troublant, et puis ils sont bons, il faut dire quand même.
Ah, mais non, mais c'est évident.
Ce sacré comédien. Ils ont aussi ce côté qui fait penser un peu aux acteurs anglais de ce point de vue-là, cette capacité justement à être là immédiatement sans se poser de questions psychologiques inutiles. Ils sont le personnage à la seconde où ils sont en scène et tout le temps qu'ils jouent. Donc, ça, c'est vraiment formidable.
Bon, on va devoir s'arrêter parce que le temps file, parce qu'on était passionnés par Hidden Force, ce nouveau spectacle mis en scène par Ivo Vanhove d'après Louis Couperus. C'est jusqu'au 11 avril à la Grande Halle de la Villette, c'est la programmation des théâtres de la ville hors les murs. Il nous reste quand même à parler d'Onegin, ce qui n'est pas rien, des sorcières de Salem, ce sera un coup de cœur, et puis d'entrer dans le petit salon de Lucille Como.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée au théâtre pour parler à présent de Onegin, d'après Eugène Onegin, d'Alexandre Pouchkine, mise en scène Jean Bellorini. C'est jusqu'au 20 avril au théâtre Gérard Philippe. Encore un grand texte, adapté par le patron du TGP, dans une traduction d'André Markovitch, on en reparlera. Comme on avait parlé il y a quelques mois du spectacle Un instant, d'après la recherche de Marcel Proust, à ce moment-là, René Solis, vous disiez avoir été sensible à ce spectacle, plus intime que les précédents de Bellorini, tirant un fil dans la recherche auquel il se tenait, la mort de la grand-mère. Pour rappel aussi, notre camarade Lenny Blue parlait de sa crainte au début du côté pathétique, mais avait été ensuite emporté, puis Lucille Como trouvait que les questions de la mémoire, de la réminiscence fonctionnaient très bien, qu'on entendait très bien le texte avec une intelligence de l'interprétation de la phrase proustienne. Alors avec Eugène Onegin, après ce petit rappel de l'épisode précédent, donc adapté dans une traduction de Markovitch, s'attaque à un autre monstre de la littérature, composé de 1821 à 1831, un roman qui a d'abord été publié chapitre par chapitre. Nous parlerons ensuite des 5523 vers, des tétramètres iambiques en russe. On va savoir comment Markovitch a traité cette matière. Au début du roman, on a donc Eugène Onegin, jeune dandy pétersbourgeois, très blasé, qui pense qu'il a tout vécu. Enfin bon, son père, lui, se ruine pour maintenir ce train de vie extrêmement faste. Le père meurt. Eugène Onegin laisse ses créanciers le dépouiller, mais va quand même profiter de l'héritage de son oncle pour se retirer à la campagne.
Onegin ouvrit la lettre et, empreint du deuil de la missive, notre Evgeny d'une âme vive partit en poste au grand galop. Bâillant déjà d'avoir pour lot, au nom d'un espoir d'héritage, ennuis, soupirs et bâillements, c'est le début de mon roman. La calèche arrive à destination, mais, accourant dans le village, il vit son oncle déjà mort, la terre ouverte pour son corps. La maison regorgeait de monde, hommage aux morts à tout moment. Amis ou non, faisait la ronde des amateurs d'enterrement. Le mort, dès lors, fut mis en terre. Les popes, les propriétaires, mangèrent, burent, fiers d'avoir, en repartant, fait leur devoir. Onéguin est maître de ferme. Tout fraîchement héritier du grand domaine de son oncle, ruisseau, forêt, haras, prairie, lui, le mutin, n'ayant appris qu'à dépenser, qu'à vivre à terme, jouissait d'avoir changé de voie, même ainsi pour n'importe quoi. De jour, les plaines solitaires éveillèrent son intérêt, le doux murmure des rivières ou l'ombre fraîche des forêts. 3 jours, et bois, prairies, collines n'occupaient plus mon Onéguin. Ensuite il s'endormait devant, puis il comprit lucidement que l'ennui est partout le même. Le spleen lui pèserait toujours, même sans vie à Pétersbourg, sans balles, sans cartes, sans poèmes. Comme votre ombre s'est ennuyée, comme une épouse, il vous poursuit. Evgeny Onéguin jouit pleinement de l'indépendance dans le grand manoir de son oncle, mais il n'a jamais autant ressenti la solitude.
Voilà pour cet extrait, je crois, qui donne un aperçu de certains des partis pris de Jean Bellorini. Peut-être d'expliquer et nous dire dans ce spectacle René Solis quels axes narratifs du roman ont été choisis par Bellorini, parce que là aussi on a affaire quand même. Là pour le coup on connaît le texte, on a la chance de l'avoir. Non mais on a la chance d'avoir des traductions. On parlait de coupes russes que vraiment dont on n'a pas connaissance. Avec Jeanne Onéguin on connaît un peu mieux.
On connaît un peu mieux. On connaît peut-être. Plus l'opéra de Tchaïkovski que le texte lui-même, parce que finalement, je suis pas sûr que Jeanne Onéguin ait un texte qui a été beaucoup lu en français. Les axes dramatiques, il conserve Bellorini une grande partie de la traduction de Markovitch. Markovitch qui a toujours dit que c'était pratiquement la grande œuvre de sa vie, cette traduction d'Onéguin. Il y a passé beaucoup de temps. Et donc, il y a, on vous l'avait dit, tétramètre iambique, des 8 chapitres avec à chaque fois une cinquantaine de strophes, entre 40 et 50 strophes de 14 vers. Là-dessus, il en a gardé à peu près les 2/3.
Ah oui, c'est beaucoup.
Donc il suit quand même de assez près la trame du roman, avec donc l'histoire de l'arrivée. Il passe assez vite sur le début, mais l'arrivée dans le domaine de l'oncle dont il a hérité, puis la rencontre avec d'abord le voisin poète, puis les deux jeunes filles de l'autre maison, et toute l'histoire amoureuse, avec évidemment au centre du roman, le duel et cette chose incroyable, ce duel prémonitoire, puisque dans le roman, le poète qui est l'offensé meurt en duel de la main de l'offenseur, ce qui sera exactement le cas de Pouchkine plus tard. Donc on est dans un respect absolu de la structure du roman, de ses personnages, de son déroulé. Voilà, il a juste coupé, été un peu plus vite à certains moments.
Autre indication importante, Fabienne Pascot, on sait que Bellorini signe également les lumières et les scénographies de ses spectacles. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que là, on a entendu, c'était un peu particulier. On va évidemment en reparler dans un instant, mais qu'est-ce qu'on voit?
Alors déjà, c'est un espace bifrontal qui enserre l'action. Donc quand on arrive dans la très jolie petite salle du Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, on est comme pris dans un cocon. On aperçoit au milieu des deux rangées de spectateurs... au fond, à gauche, un preneur de son, qui est Sébastien Trouvé, qui s'amuse un peu avec, qui semble s'affairer à une console. Au milieu, quelques acteurs sur des chaises, une table avec des candélabres, un piano sur lequel s'affaire une délicieuse comédienne, mais qui joue et dont on ne sait pas vraiment le rôle, parce qu'elle parle pas beaucoup, qui est Mélodie Ami-Vallet, qui va interpréter toutes les femmes du spectacle. Et donc, on est saisi dans un étrange climat, parce que juste au moment de s'asseoir, on voit un casque.
Et donc, le spectateur avisé comprend que finalement, est-ce que c'est à de la radio à laquelle il va assister? Est-ce que c'est un spectacle? On vient lui expliquer avec bonhomie et convivialité qu'il faut mettre le casque sur les oreilles. Tout ça semble se passer à la très bonne franquette. Il met le casque. Il écoute l'histoire, il peut enlever le casque et tout à coup, par ses oreilles, c'est un monde merveilleux qui rentre dans son cerveau.
Alors ce monde, résumé en une phrase là, pour vos impressions avant de débuter vraiment le débat, Lucile Comeau, sur cette production.
Alors moi je trouve que c'est un spectacle magnifique, même je suis reconnaissante envers ce spectacle.
C'est beau. René Solis.
Oui, c'est un spectacle absolument merveilleux, magique, formidable.
Fabienne Pascaud.
Moi je dirais en plus que c'est un spectacle généreux.
Bon, c'est pour ça que Lucile Comeau lui dit merci. On va être reconnaissant. Et ben, c'est avec ça, vous donnez pas envie. On précise un peu, qu'est-ce que vous avez vécu, Lucile Comeau, comme expérience de spectatrice?
Pourquoi déjà je lui dis merci? C'est parce que vous parlez de ce texte qui, en effet, est un texte connu, mais néanmoins très difficile pour nous à lire. Parce que, question du vers. Et lire un gros roman, parce que c'est un pavé, on le présente au début du spectacle, on le voit, le livre, il est sur les tables, il est dans les mains de tous les comédiens. C'est un gros roman qui allie le romantisme et l'épopée. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous à entendre. Et là, on l'entend parfaitement grâce à ce système, en effet, de sonorisation. C'est-à-dire qu'on entend à la fois les comédiens qui se relaient. En fait, ils ne jouent pas vraiment des personnages. Il n'y a pas un personnage, un acteur. Tous sont des narrateurs.
C'est presque grande lecture.
Exactement. Parfois, ils incarnent quand même l'un Lenski, l'autre Onegin, et puis en effet, cette jeune fille qui interprète plus ou moins quand même Tatiana. Et ils se relaient avec cette histoire. C'est très dense, ça dure 2 heures, mais en effet, on a presque l'intégralité du roman, avec, vous le disiez Fabienne, cette convivialité, surtout cette manière de tout le temps nous prendre en main. Moi, ça m'a un peu agacée au début parce que je déteste ça. Je déteste qu'on me parle du spectacle, de ce qui est en train de se passer. Ça arrive à plusieurs reprises. Il y a des pauses. On nous dit, bon, posez les casques, massez-vous les oreilles. C'est pas ce que je préfère dans le spectacle, mais en fait, c'est très intelligent. Parce que dans le texte, il y a ça. Il y a un narrateur qui prend tout le temps la parole, qui nous dit ce que lui pense des personnages, ce que lui pense des spectateurs, enfin, peut-être des spectateurs, des lecteurs. Et ça crée un effet de distance qui est à la fois un effet de convivialité et un grand effet d'ironie. C'est un texte d'une ironie, d'une dureté, d'une violence, Onegin, et ça, le processus de sonorisation, paradoxalement, alors qu'on nous chuchote à l'oreille, prend en charge cette dimension-là. C'est d'une intelligence littéraire. Enfin, moi, franchement, je suis soufflée.
Alors,
vraiment.
C'est arrivé un peu tard pour rentrer dans un précédent petit salon. Sonorisation dans les salles de spectacle, parce que là, c'est quand même une expérience très particulière. On avait évoqué quelques spectacles pour lesquels chaque spectateur avait son casque, mais ça donne, Fabienne Pascaud, un autre type de jeu, un autre type de direction d'acteur. Je crois qu'on l'a très bien entendu dans l'extrait, d'ailleurs.
Oui, d'autant plus que quand on enlève le casque, parce que moi, j'ai tout de suite enlevé mon casque, en fille désobéissante que je suis, les comédiens chuchotent. Ils parlent très, très bas. Donc, ce qui leur permet de murmurer toutes les finesses, les subtilités du texte. Alors, on peut avoir un plaisir à écouter sans le casque, parce que c'est d'une douceur. C'est magnifique, ce qu'ils font. Mais en même temps, avec le casque, on a tout l'habillage sonore de Sébastien Trouvé et on entend les tempêtes, on entend le vent, on entend la nature, on entend tout ça et c'est, on s'immerge en poésie et il faut que j'avoue que moi qui ne suis pas toujours comme René une inconditionnelle de Markovitch, dont je trouve parfois les traductions un peu brutales, c'est aussi ce qui fait leur place.
Fabrique, hein.
Voilà, là il a trouvé, alors je crois qu'il a travaillé 28 ans sur ce texte qui est vraiment, il était là d'ailleurs, je crois qu'à mon avis il doit assister à toutes les présentation. Il était dans un coin le soir où j'y étais. Il écoutait avec... il était encore fasciné par la poésie de Pouchkine, mais il a traduit ça avec une fluidité, une légèreté et un humour aussi, une mélancolie. C'est plein de larmes et c'est plein de rire. Donc c'est vraiment bouleversant.
Bon, on est toujours dans le mois Markovitch dont vous avez parlé, René Solis. Au théâtre Gérard Philippe. Encore quelques mots, René, pour développer votre sentiment maintenant.
Je parlais tout à l'heure de texte au service d'une mise en scène. Là, on a vraiment une mise en scène au service d'un texte. Et c'est effectivement, on l'entend remarquablement bien. Alors, il a traduit ça en octosyllabes rimées. Ce qui est un très proche de l'original, en tout cas de la structure de l'original, puisque c'est aussi des vers de 8 syllabes en russe. Et donc, ce qui est effectivement formidable, c'est ce que vous disiez, Fabienne, c'est ce mélange de légèreté, d'humour dans un texte dont on peut avoir l'impression qu'il est tout à fait tragique. Alors, on est aussi dans du mélodrame d'une certaine façon, mais on est aussi dans la tragédie. On va discuter savoir si c'est plus mélodramatique que tragique. Mais il faut rappeler aussi quand même que cet octosyllabe dans la tradition poétique française, c'est un vers qui a été beaucoup utilisé au Moyen-Âge. Villon a beaucoup le testament de Villon, c'est des octosyllabes. Ronsard, c'est des octosyllabes. La Fontaine qui mélangeait les longueurs de vers, mais utilisait aussi beaucoup les octosyllabes dans les fables. Et il y a l'octosyllabe rimé, ça permet aussi un retour à la rime très 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 fréquent. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que ça accentue le côté très chantant de la chose. Et donc c'est extrêmement chantant tout le temps et drôle. Il y a un côté comptine qui a pas beaucoup finalement d'équivalent dans la poésie française, justement. Donc c'est comme si on découvrait tout d'un coup une possibilité poétique en français. Et le seul équivalent que je trouverais, c'est pas en français, c'est la poésie de Lorca, qui est si difficile également à traduire en français, a ce côté presque naïf, très populaire et très chantant sur lequel beaucoup de traducteurs se cassent un peu les dents. Et Marc Ogilvie, si c'est vraiment pas casser les dents, c'est un bonheur.
Un tout petit mot, Fabienne Vasco.
Oui, ce qui est très bien dans ce dispositif tellement léger, c'est qu'il va pouvoir l'amener partout, Bellorini, avec ses acteurs. Donc, cette parole-là, dans cette mise en scène simple et fragile, eh bien, elle va pouvoir être entendue dans les villages, elle va pouvoir être entendue dans des lieux qui sont pas forcément faits pour. Et ça fait partie de la générosité dont je parlais tout à l'heure.
Un dernier mot, Lucille.
Oui, Comeau. C'est vraiment le bon spectacle pédagogique dans toute la noblesse de ce que ça veut dire, la pédagogie. Moi, j'ai vu aussi des familiarités avec le roman français du 19e, avec Flaubert, dans cette ironie permanente que j'avais vraiment, des choses que je n'entendais pas chez Pouchkine avant. Vraiment.
Et Musset. Super. Et Musset.
Oui, oui. Oui, tout à fait. Il y a un moment où on n'a plus le casque sur les oreilles et pour le coup, il déclame, le comédien, à des moments cruciaux à la fin, un des moments les plus tragiques. On entend quasi des alexandrins. Enfin, pour le coup, l'octosyllabe devient le vers français par excellence.
Bon, ben voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller voir Onegin, si on ne l'a pas vu, ce qui est mon cas, d'après Pouchkine, mise en scène Jean Bellorini, jusqu'au 20 avril au théâtre Gérard Philippe, à noter les dates suivantes qui seront à la Criée à Marseille du 21 au 26 mai. Un coup de cœur signé ce soir Fabienne Pasco pour Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Mise en scène Emmanuel de Marcimota, en ce moment à l'affiche de l'Espace Cardin pour le Théâtre de la Ville. Fabienne, pourquoi ce choix ?
Bien écoutez, c'est un choix qui m'a surpris moi-même parce que franchement, Les Sorcières de Salem, je l'avais lu quand j'étais jeune fille et j'avais trouvé déjà que la pièce était démodée, ampoulée et elle ne me plaisait pas du tout. Là, je suis restée, j'allais dire sur le cul, mais je vais le dire quand même.
Comme de ronde-flanc, si vous voulez.
Voilà, comme de ronde-flanc. Voilà. Allez,
si vous voulez. Hein.
Voilà, parce que Emmanuel de Marcimota a fait une adaptation qui resserre brillamment la pièce, en fait une sorte de cauchemar, mais un cauchemar d'aujourd'hui. Alors, l'intrigue, elle est simple. Quand Miller écrit la pièce en 52, elle sera créée à Broadway en 53, il prétend raconter le macartisme à travers l'histoire d'un village dans la Nouvelle-Angleterre en 1692, si je ne m'abuse, où une jeune femme amoureuse d'un certain John Proctor, qui est hélas pour elle mariée, va n'avoir de cesse de jeter des sorts sur sa femme. Et ce faisant, elle se laisse prendre, on la prend pour une sorcière, elle s'appelle Abigail, hein, on la prend pour une sorcière, et finalement, pour résister à cette attaque de sorcellerie, elle va dénoncer toutes ses amies, tout le monde, pour leur dire que c'est eux
Ce sont eux, les sorciers et les victimes du démon. Donc, on voit dans ce spectacle qui évoque évidemment la chasse aux sorcières de McCarthy, comme je l'ai dit, dans les années 50 aux États-Unis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit la force de la rumeur, la force de la mauvaise information, des fake news, et comment on peut politiquement dresser une communauté l'une contre l'autre. Et ça, il l'a très très bien fait, Manuel de Marcimota. C'est super bien joué par Élodie Bouchez, que j'ai découvert dans le rôle d'Abigail, qui est formidable. Serge Maggiani joue évidemment l'homme marié qu'elle aime et qui tente de résister, de sauver sa femme, mais qui n'y parviendra pas. Et c'est monté dans un climat totalement onirique et fantastique qui contredit ce que pouvait avoir la pièce de naturalisme. Bref, c'est tout à fait beau et bien.
Bon, là aussi, vous donnez envie d'aller voir Les Sorcières de Salem, d'Arthur Miller, mise en scène par Emmanuel de Marcimota, à l'Espace Cardin jusqu'au 19 avril. Et nous voici rendus dans le petit salon de Lucille Gaumont où ce soir on se projette, Lucille.
Et oui, on se projette dans l'été et ses festivals.
Oui,
on a hâte. Il y a eu la sacro-sainte présentation à la presse du Festival d'Avignon, c'était il y a quelques jours. Alors pour le commun des mortels, c'est une cérémonie qui passe relativement inaperçue. Mais pour nous, la congrégation, c'est le moment où on apprend le nom des artistes et des spectacles qui nous cloueront à nos sièges au mois de juillet. Alors, je ne vais pas affiler la métaphore religieuse plus longtemps et pourtant ce serait assez pertinent tant le style d'Olivier Py, maître de cérémonie et directeur du festival, s'approche de plus en plus de la conduite de messe. Le texte qu'il a écrit, et je vous invite tous à le lire, ce serait trop long ici, sur le site du festival a toutes les caractéristiques et l'emphase d'un sermon et on retrouve donc au creux de la conférence et dans le choix des spectacles l'habituelle trinité poésie, théâtre, politique. Olivier Py, comme toujours, choisit un thème qui fédère son programme. Cette année, c'est Odyssée au pluriel. Et pendant sa présentation, il s'est attaché à rapprocher chaque proposition de ce sujet. Alors parfois, c'est assez lâche. Par exemple, le spectacle qui sera donné dans la cour d'honneur, signé Pascal Rambert, est présenté comme l'histoire d'une famille européenne en proie aux violences de l'histoire. Parfois, à l'inverse, c'est tout à fait littéral, puisque par exemple, Blandine Savetier va investir la forme feuilleton désormais traditionnelle à Avignon avec un spectacle intitulé Odyssée. Le motif de l'exil, quoi qu'il en soit, est le fil tiré par Olivier Py qui promet, comme toujours, un festival très politique, ce qui, à force d'être asséné, finit par faire douter de son engagement et fait craindre que la décharge attendue ne soit en fait qu'un vœu pieux. À côté de cette grosse machine d'Avignon, désormais se pose un autre festival qu'on regarde avec attention, le Printemps des comédiens de Montpellier, qui semble depuis quelques années prendre une ampleur nouvelle et peut-être au détriment de son grand frère par la liberté de son programme. Cette année encore, le programme fait très envie, réunit des valeurs sûres comme Franck Castorf ou Julien Gosselin, beaucoup de jeunes, notamment de jeunes femmes, et surtout cette hybridité entre théâtre, danse, cirque, musique, qui est désormais cantonnée à Avignon à une catégorie, l'indépendance. Discipline, je cite, qui à force d'être une catégorie n'est plus tellement indisciplinée. Quand on lit le programme de Montpellier Nul Sermon, son directeur Jean Varela ne signe d'ailleurs aucun texte introductif et de thème il n'y a point, quitte à disséminer ses propositions et à n'assurer finalement aucune cohérence au festival, sinon le lieu où il se déroule. Alors je vous laisse commenter les programmes, dire ce qui vous allèche ou non, avec au fond cette question, un festival ne se porte-t-il pas mieux sans sujet ?
Ah, on pourrait partir là-dessus, mais je pense que Pascal a quelques commentaires à faire sur le sermon d'Olivier Py.
Oui, je vous ai trouvé méchante.
Un sermon peut être très beau.
Oui, vraiment. Ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il se débrouille plutôt pas mal en sermon d'habitude.
Il a
une fougue de vrais croyants et sur moi ça marche plutôt bien. Non, mais là, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est un peu de notre faute à nous aussi, journalistes, parce que combien de fois en interview, et vous ne me contredirez pas, ni Arnaud ni René, on demande au patron de festival, est-ce qu'il y a un fil conducteur de votre programmation ? Donc, c'est nous qui allons chercher le fil rouge, des thématiques, pour faire nos articles. Donc, ils nous devancent d'une certaine manière.
C'est pas la même chose de le faire après coup, en voyant des rapports entre les spectacles. Et c'est pas exactement le même.
Oui, mais... Quand Vincent Baudrier et Hortense Archambault, avec leur artiste associé, trouvaient des fils aussi, c'était un peu la même chose. Il est plus frontal, il est peut-être maladroit, Olivier Py, dans cette volonté un peu prosélyte de convertir à sa vision du théâtre. Mais moi, sa vision du théâtre, je la trouve plutôt généreuse. Là, il veut lutter contre la solitude. Il dit que le théâtre, c'est être ensemble, parce que je l'ai lu quand même, lu son introduction. Je n'étais pas à la conférence de presse. Moi, ça me barre toujours les conférences de presse. Mais le programme en soi, revenir au récit fondateur, à Homère, à Virgile, à Racine, même à travers Phèdre, au grand texte, bon, c'est... On ne peut pas lui en vouloir de ça. L'année dernière, il avait fait une programmation autour du genre qui était totalement audacieuse. Donc là, qu'il revienne au mythe fondateur pour nous inciter à y réfléchir, alors que nos mondes sont en proie à l'individualisme, et chercher ce qui peut nous rassembler à travers des récits fondateurs. Il y a même l'Orestie que monte Jean-Pierre Vincent. Moi, en soi, je trouve ça pas mal. Je le dis, même si vous n'êtes pas d'accord, je l'affirme.
Non, l'Orestie, Jean-Pierre Vincent, c'est vrai, je suis pour, c'est pas le problème. Hein.
Le printemps des comédiens, c'est vrai que c'est assez excitant. Ouais. Mais là aussi, il y a tout... Il y a Jean Varela, c'est sûr, mais il y a aussi, surtout, Éric Barthes, hein, qui est un programmateur formidable et qui connaît le théâtre par cœur, qui y passe sa vie. Donc, il a fait une programmation, là aussi, qui se rapproche du Festival d'automne. On pourrait aussi dire qu'il y a que Castorf, que Rambert. D'ailleurs, les deux festivals mettent Rambert. Hein, qu'il y a aussi des incontournables à la mode, Branchouille, sur la carte, Gosselin, Creusevaux. Bon, ils ont chacun leurs défauts.
Comme vous y allez.
Ben oui, non, mais c'est un festival pour nous plaire à nous Parisiens. Il y a aussi des choses excellentes, formidables.
Non, mais les branchouilles, vous voulez dire.
Mais oui, c'est pas péjoratif. Ivo Vanov, il fait partie des branchouilles d'une certaine manière maintenant.
Donc c'est un bon club.
Mais tant mieux, mais c'est un bon club.
D'accord.
Oui.
Non, moi je découvre que là, ça m'excite beaucoup que Simon McBurney va monter la cerisée.
Mais oui, voilà.
Avec les acteurs d'Ivo Vanov. Justement, vous retrouverez la princesse indonésienne.
Hein. Exactement. Oui, mais McBurney, il est au Festival d'automne aussi, donc c'est bon, on fait un festival comme on peut, ça c'est...
René Solis, est-ce qu'il faut un sujet, je reviens à la question peut-être aussi qui concluait l'interpellation de Lucile Comeau.
D'abord, dire quand même que c'est toujours un peu délicat de faire de la déception ou de l'enthousiasme par anticipation, donc voilà, c'est difficile de préjugés de ce qui va se passer.
Bon, mais dans quelques jours, il y aura l'annonce des films de Cannes et il y aura des commentaires sur des colonnes et des colonnes. Hein. Donc on peut le faire aussi au théâtre, il n'y a pas de raison.
Exactement, n'ayons pas honte.
Bah oui.
mais je crois quand même que moi, je suivrais assez volontiers Lucile Comeau. Il y a quand même un petit souci, je pense, sur la programmation d'Avignon. Alors, au départ, il y a quelque chose de louable, hein, quand il est arrivé, il a dit, en gros, il faut arrêter l'entre-soi, ce que vous appelez le branchouille, cette tendance à faire le programmer entre eux, le Kunsten Festival des Arts de Bruxelles, le Wiener Festwochen de Vienne, d'avoir toujours un peu les mêmes artistes, etc. On va essayer de trouver des choses plus originales, plus jeunes, moins attendues, etc.
Bon, enfin, chaque année, il a quand même de ces branchouilles qui assurent les plus grandes entrées du Festival d'Avignon et la couverture. Oui,
il en a quand même,
mais il en a bien d'autres. Pascal Rambert cette année dans la cour.
Il faut que ça marche, un festival aussi. Non,
oui, et donc il faut que ça marche, mais on peut dire aussi qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Alors si vous prenez, l'exercice est un peu facile, mais le dernier festival de Archambault et Baudrier, il y a une espèce de feu d'artifice comme ça de nom. Mais pour revenir à cette histoire de Cannes, je pense que quand même qu'il y a à Avignon une On dirait pas de Cannes qu'il faut arrêter de programmer à Cannes les grands films du cinéma mondial et se recentrer sur la jeune création ou sur des thèmes justement. Non, et je pense qu'Avignon a toujours un rôle d'être le lieu de l'excellence de l'art et essai en gros. Alors si ça passe par des noms, ce que vous appelez le fameux club, oui, mais et alors,
je veux dire, c'est oui, aussi mais je le regrette pas.
Et Avignon, n'oublions pas qu'Avignon est aussi un endroit où il y a un public extrêmement divers, diversifiés. C'est un des lieux quand même de la démocratisation du théâtre, même si bon, mais c'est pas le même public que les théâtres parisiens. C'est pas, et donc c'est quand même très bien aussi que le public d'Avignon ait accès à tous ces grands artistes. Or c'est vrai que quand on regarde la programmation de ces dernières années, la portion est un peu congrue. Et c'est vrai que par rapport à ça, le festival de le printemps des comédiens, sans grande déclaration. Je crois que c'est Ariel Goldenberg, autre grand programmateur, quand on lui avait proposé la direction de Chaillon, on lui avait dit « Quel est votre projet ?» Et je crois qu'il avait répondu « Mais mon projet, il tient sur un ticket de métro. » Son projet, c'était juste sa passion de programmateur et sa capacité à faire venir des gens et des projets importants et intéressants. C'est vrai que je me méfie un peu, moi, du thématique et de cette tendance à toujours vouloir ramener à une problématique, etc. Donc, de ce point de vue-là, oui, Varela, sans éditorial et sans grande proclamation, sa programmation parle pour lui. En l'occurrence, on peut dire qu'elle est peut-être un peu plus excitante. Maintenant, on verra. Et encore une fois, il ne faut pas présager trop non plus.
Mais c'est comment ?
Sur la question des textes, je me pose aussi beaucoup de questions parce que ce retour au grand classique qui est tout le temps amené par Olivier Py, et pas que lui, hein, d'ailleurs, c'est assez récurrent, comme une manière d'attirer tout le monde des grands publics au théâtre, je ne l'ai jamais compris. Moi, je trouve qu'un grand texte, c'est beaucoup plus intimidant qu'un spectacle, entre guillemets, je reprends votre catégorie, branchouille, qui part dans tous les sens, qui est totalement indiscipliné, qui du coup ne rentre dans aucune case, qui n'a aucun précédent dans la tête des spectateurs. Là, pour le coup, on est totalement à égalité. Quand on a un grand texte qu'on a Phèdre, on n'est pas du tout le même spectateur, en étant nous critiques ou nous ayant vu plein de Phèdre, que quelqu'un qui n'est jamais allé au théâtre. Et je le trouve très contradictoire, en fait, cette question du grand texte et du grand répertoire. Je ne trouve pas ça du tout plus incluant de monter des grands textes plutôt que de monter quelque chose de complètement fou, de complètement indiscipliné, et pas du tout dans le texte.
Ah oui, mais je sais pas, je suis assez d'accord avec ce que vous dites.
Mais c'est quelque chose qu'Olivier Py dit beaucoup. Pour lui, il articule totalement la question du retour au théâtre de texte, au théâtre de répertoire et l'élargissement des publics.
Oui, mais il y a de moins en moins de textes de répertoire. Regardez là, ce dont on a parlé là ce soir, nos deux spectacles, c'était des adaptations d'un roman de Pouchkine, d'un roman en vers et d'un roman de Couperus, d'Ivo Vanov. Donc
voilà, il reste Rambert et Mouawad pour le répertoire contemporain. Ils sont là, ces festivals.
Voilà. Mais c'est bien aussi au théâtre, dans un festival, qu'il y ait aussi des textes qui soient faits pour le théâtre. Je ne dis pas que ça, mais on ne peut pas non plus... Il y a une spécificité. Il y a aussi, quand le spectateur qui va à Avignon, il a aussi envie qu'on lui raconte une histoire avec des personnages de la psychologie, même si je mesure que c'est un peu gnangnan de dire ça, mais ça, il y a quand même quelques grands textes de répertoire de théâtre qui lui procure aussi ce plaisir-là, parce que c'en est un. On ne va pas le mettre à la poubelle. Il ne faut pas non plus le jeter, il existe.
Et sur la dimension politique, je ne sais pas moi, qu'elle s'articule autant, qu'elle se montre autant, je me méfie énormément de ça, ouais, personnellement. J'ai l'impression que si on nous l'assène comme une vérité programmatique, c'est que justement, il y a un problème avec le Festival d'Avignon de ce point de vue.
Oui, enfin, c'est vrai qu'en la matière, on peut se méfier du volontarisme appliqué à une programmation artistique et à des choix d'artistes. Ça devrait pas être le premier critère. Et effectivement, je pense que la lecture politique, elle vient plutôt après coup qu'avant coup, que les choses se révèlent. Révèlent leur pertinence, peut-être presque malgré elle, ou en tout cas c'est les spectateurs et l'épreuve de la représentation qui fait se révéler des choses qu'on n'avait pas entendues. Et ce qui est vrai d'ailleurs dans les grands textes, on entend toujours, c'est ça qui fait qu'un grand texte est un grand texte, qu'on entend toujours une résonance nouvelle avec une actualité. Et c'est vrai que vouloir prévoir ça, le programmer d'avance, moi je suis aussi un peu dubitatif.
Vous avez la difficulté de l'exercice de l'éditorial qu'il faudrait en fait supprimer. Il faudrait que Olivier Py fasse l'éditorial de l'année précédente, du festival précédent. Non, mais ce serait pour répondre vraiment à René Solis. Moi, je crois que c'est à la fois, je pense qu'il y prend plaisir parce qu'il dit une chose qu'il croit à lui.
Et qu'il aime écrire. Et
qu'il aime écrire. Nécessairement.
Évidemment.
Ils
seront dans sa pléiade, à n'en pas douter, ces éditoriaux du festival d'Avignon. Mais je pense qu'il ne faut peut-être pas leur en prêter trop, ou y prêter trop d'attention. On l'a fait un peu ce soir, mais parce que c'était une façon d'entrer dans ce petit salon. Mais c'est un exercice qui est plus un exercice de style, vraiment, pour le coup. Pour Olivier Py.
Mais qui est révélateur, Lucille, parce que le titre, c'est quand même « Désarmer les solitudes ». En cette période, je trouve qu'il faudrait plutôt les armer, moi, les solitudes.
Mais bon, d'accord,
c'est mon opinion personnelle. Armer, je trouve que c'est un vrai lapsus d'avoir appelé ce texte « Désarmer les solitudes ».
Mais comment ça, « Armer les solitudes » ?
Désarmer les solitudes, ça veut dire ne leur donner aucun moyen d'agir. Je trouve ça étonnant, moi.
Ben non, qu'il n'y ait plus de solitude. Moi, c'est comme ça que je l'entends.
D'accord, bon. Chacun ses interprétations.
Ah non,
vraiment pas. Moi, pour moi, c'est ôter les armes des solitudes.
Bon, alors, on parlera de la question de l'armement peut-être après cette émission, parce qu'elle va bientôt se conclure, ou alors dans une autre émission. Refermons ce petit salon. On conclut cette émission, non pas par un armement, mais par un jeu. Le jeu de la dispute, Joséphine Dumoulin est là, comme chaque soir, pour nous rappeler d'abord la question que vous posiez, Joséphine, vendredi soir.
La question était de quel philosophe Rocío Molina, filmé dans Impulso, s'est-elle inspirée pour la création de son second spectacle en tant que chorégraphe ? Et la réponse était Nietzsche.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition manuscrit de l'extrême prison, passion, péril, possession. C'est à voir la BNF jusqu'au 7 juillet. La question, Joséphine ?
Quel objet fabriqué avec du parchemin est considéré comme l'ancêtre du livre papier ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Joséphine Dumoulin, prise de son Pascal Baudin, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, une dispute musique en compagnie de Lucille Como. Emmanuel Dupuis et Charles Ardenne, nous parlerons de Lady Macbeth de Minsk, de Dmitri Shostakovich, mise en scène Christophe Barlikowski, c'est en ce moment à l'Opéra Bastille, la chauve-souris Johann Strauss, mise en scène de Célipote en tournée, un disque de Seiji Ozawa consacré à la 9e symphonie de Beethoven, et puis un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour Ariane et Barbe Bleue présenté en ce moment au Capitole à Toulouse.